Voilà.
Je suis sûr que c'est toi qui vas le faire, parce que moi, je n'ai pas du tout envie de le faire, mais je ne ferai rien.
Oui.
Non, mais si, par contre, j'ai dit que j'apprécie, et je critique quand c'est nécessaire.
Avec argumentation, mais tu feras encore une chose que je vais te demander, mais c'est après.
Bon.
Il adore ça.
Oui, non, j'adore pas. Donc, si vous en êtes tous d'accord, question préliminaire, un débat, discussion sur le problème de compte rendu et de podcast. Puisque il semblait que la semaine dernière, il y a eu quelques oppositions sur. Alors, on va fermer.
Oui, parce que les motos.
Non, mais attendez,
il y a un défilé de motos.
Par contre, c'est dommage. Ils l'ont annulé dimanche dernier. On va pas venir. C'est des filets Harley.
Ouais, c'est les Harley.
Ouais, c'est un joli bruit.
Mais... Si, si, c'est bien. Quand on est dessus, c'est bien. Mais bon.
Bon, alors. C'est un point qui est très important. On va finir maintenant. Et la dernière fois, donc je n'étais pas là, mais. J'ai eu un compte rendu.
Non, j'ai pas fait de compte rendu. Ferai le compte rendu si on décide de le faire. Mais moi, je t'ai informé, mais j'ai pas fait de compte rendu en lui-même.
Alors, on va reprendre l'historique. Depuis le début que nous faisons des réunions, il y a une charte de l'Assemblée dont le sixième principe, c'est la transparence. La transparence, ça veut dire que les débats de l'Assemblée sont publics, publics, ça veut dire que n'importe qui peut y assister, mais qu'ils sont également enregistrés pour que ceux qui ne viennent pas ou ne peuvent pas venir puissent ensuite écouter dans le détail. Ça sert aussi, l'enregistrement, à constituer une base de données irréfutable pour savoir exactement ce qui a été dit. Donc c'est vraiment une démarche de principe de fonctionner en toute transparence. On n'est pas à huis clos, on est une assemblée ouverte, c'est pas un club. Un club, il a des membres et lorsqu'il débat de quelque chose, c'est pas forcément destiné à ce que tout le monde soit au courant des différents arguments qui ont été échangés. Par contre, une assemblée citoyenne qui est ouverte à tout le monde, n'importe qui peut venir à n'importe quelle assemblée, voilà.
On est public, pas privé, en résumé.
Voilà.
C'est ça.
Voilà.
Et dans le public, c'est la transparence qui prévaut.
C'est la transparence. Ah.
Bon. C'est-à-dire que même les excès de langage, bon, sauf si c'est des incorrections flagrantes, c'est pas permis. Enfin, je veux dire, c'est...
Ah oui, mais alors là...
Mais alors, il y a un problème de limite.
Attends, mais toi qui es contre les censures, tu es en train d'expliquer s'il y a vraiment quelque chose qui gêne.
Non, justement. Même les excès de langage, oui. Je finis ma phrase, doivent être permis.
Oui.
Moi, j'ai utilisé le terme de joute verbale. C'est ça. On est là.
Oui,
on est
là pour... On n'est pas sur un terrain de sport où
mais si.
Pas s'esquinter, hein.
Non, mais il ne faut pas s'esquinter parce qu'on est des gens quand même éduqués et corrects. Mais je veux dire, mais le fond de notre pensée, on doit pouvoir l'exprimer.
Je ne sais pas, attends. Voilà qu'on dit. Attends.
Oui, allez.
J'avais terminé. Le débat est lancé. Hein. Alors, il y a un débat sur le podcast audio. Et puis après, je voudrais qu'on reparle aussi du compte-rendu. Bon, alors on va commencer par le podcast audio. Le principe, c'est la transparence. Ouais. Comme à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que les gens s'expriment, et puis n'importe qui peut écouter ce qu'ils disent, et ils savent, lorsqu'ils s'expriment, que leur parole est publique. Bon. Alors, là, on a commencé à évoquer des gros mots. Il y a deux incidences qui ne sont pas de même nature. C'est-à-dire que lorsque les participants de l'Assemblée s'expriment librement, et peuvent éventuellement dire du mal de quelqu'un, etc., etc., etc.
Avec argumentation.
Même avec argumentation, il y a le niveau où l'Assemblée accepte... accepte la libre parole, et donc là, l'enregistre et la retransmet. Puis, il y a le deuxième niveau, à partir du moment où c'est retransmis, enregistré et diffusé, ou il peut y avoir un tiers qui est mis en cause par quelque chose qui est dit par tel interlocuteur au sein de l'Assemblée et qui peut porter plainte pour insulte ou diffamation.
Voilà.
Alors, il faut savoir que lorsque on va s'exprimer à l'Assemblée citoyenne, qui est un lieu public, on est dans une salle, qui est une salle municipale, qui est un lieu public, ce qu'on dit, éventuellement, peut faire l'objet de plaintes, de signalements ou de main courante si on dit que monsieur un tel est un imbécile ou etc., etc. ou que monsieur un tel est un voleur sans avoir de preuves, etc. Bon, il y a donc les délits. Après, que la loi soit juste ou bonne, ça c'est un autre débat, mais il y a dans la législation française un délit de diffamation, un délit d'insulte, un délit d'injure. Hein, bon, et il faut. Alors, on peut dire, à partir de là, ah oui, mais. Donc, dans l'Assemblée, quand on est en Assemblée, il vaudrait mieux, effectivement, qu'on n'ait pas ce podcast, parce que si on dit quelque chose contre quelqu'un, ensuite, ça peut être utilisé contre nous. Oui.
C'est un manque de franchise.
Non, mais oui, mais justement, c'est aussi. Moi, je dirais que c'est même plus, c'est de l'éducation citoyenne, de savoir que quand on vient à l'Assemblée, c'est pas un acte anodin.
Il faut savoir.
C'est pas un acte anodin. On vient à l'Assemblée, c'est-à-dire on s'exprime et on respecte la loi. On respecte la loi. Voilà.
Ah.
Bonjour. Et alors, je fais juste. On est dans un débat préliminaire sur l'affaire du podcast et l'affaire de la.
Mais il est, je crois que Jean-Pierre n'était pas là.
Bon.
Non, il n'était pas là.
Alors, la dernière fois, il y a un participant qui a émis des réserves, enfin, qui était contre le fait qu'on mette un podcast en libre circulation. Alors, c'est. Bon, on peut le citer, c'est Pierre, puisque. Il s'en est ouvert à tout le monde et notamment à moi puisque j'avais fait la rédaction à ce moment-là parce qu'il avait dit j'étais trompé
sur la statue de...
il avait dit que c'était monsieur un tel qui a Saint-Maurice les couches avec son tracteur avec fait tomber la statue etc. Et donc son argumentation c'est de dire oui mais alors si les podcasts sont en libre circulation. Si on a dit une bêtise.
Alors je dirais que on est des adultes et il faut savoir tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Il faut assumer ses responsabilités. C'est comme dans un discours quand on discute avec Pierre-Paul Jacques ou Catherine.
Non mais alors, non seulement il y a des trucs comme ça, mais il y a aussi. Ça arrive à tout le monde. Aussi d'être désagréable avec un collègue.
Mais oui, on est responsable de ses humeurs.
En l'occurrence, ce n'était pas être désagréable, il arrive.
Non.
J'en ai bien lancé une fois.
Non, mais j'ai certainement pensé à. Notamment lorsque toujours tu as dit tu me censures, ou je ne sais plus. D'ailleurs. Moi, je ne retiens pas, je peux me tromper là, parce que je me sens que tu avais dit ça.
Oui, moi pour moi.
Mais laisse-moi terminer.
Oui, vas-y.
À ton voisin de droite, je crois.
Oui, mais c'est là.
Je ne suis pas sûr de moi, mais il me semble bien, parce que c'est banal tout ça.
Oui, c'est banal.
Et tu lui as dit, je crois que tu me censures, tu me.
Oui.
Et ça n'a pas trop plu quand même. Bon,
on est là pour mettre les choses sur la table. Oui, moi, je ne vois pas de quel droit une personne. Moi, j'ai le droit de m'exprimer et souhaite que ma parole soit entendue, même au-delà des frontières, pour faire adhérer les gens à mes idées. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un déciderait comme ça, quand tu parles, on ne t'enregistre pas, ta voix ne compte pas.
Non, mais c'est...
Ça, c'est ce qu'on appelle de la censure. On reproduit ce qu'on critique. C'est-à-dire que nos médias, ils filtrent l'information, ils prennent qu'un bout de phrase qui raccorde avec un autre bout de phrase.
Moi, je n'ai pas pour relever, c'est vraiment vague dans ma tête.
Oui.
C'est la conversation qui m'amène à le relire.
Non, mais si on reste sur le sujet.
L'importance du 4 postes en liste. Oui. En ligne.
On reste sur le sujet du podcast, oui ou non. Parce que, effectivement, ça pose des problèmes, des questions dans certaines assemblées, hein, puisque moi je suis en contact d'un certain assemblée, et il y a des assemblées où les gens ne veulent pas. Hein, ils se disent, bon, pas que... Donc ici, on avait dit depuis le début, transparence. À partir du moment où il y a quelqu'un qui dit, écoutez, moi je ne suis pas d'accord avec les podcasts, il y a deux solutions. Hein. Ou bien l'assemblée revient sur ce qu'elle a décidé et dit, ok, il n'y a plus de podcasts, ou alors l'assemblée continue à dire, si, on veut les podcasts, et puis ceux qui sont pas d'accord, soit ils ne viennent pas, soit ils ne parlent pas. Mmh. Bon, voilà. Donc c'était pour... À partir du moment où quelqu'un soulève le problème, c'est normal qu'on en parle et qu'on ne dise pas « Attends, ça, on l'a décidé, on n'en parle plus. Ben, » On est démocrate, on accepte de resoulever les problèmes. J'insiste sur le fait que lorsque on parle dans un cénacle comme celui-ci, qui est encore une fois un cénacle public, puisque n'importe qui peut venir, c'est pas une réunion privée, et que les propos vont être enregistrés et vont être mis en ligne... On est éventuellement susceptible d'être attaqué pour injure, diffamation et insulte si on...
Et ce qui est normal.
Voilà. Bon. Non, mais il faut le savoir. Il faut le savoir et à partir de là, eh bien, soit on n'accepte pas, parce qu'on n'est on est pas sûr de sa parole, on n'accepte pas, soit alors il faut le considérer comme une espèce d'éducation populaire, éducation à la parole, éducation à la libre expression, sachant que la libre expression, c'est là qu'il ne faut pas confondre les deux sujets, la libre expression existe, dans la mesure où j'ai le droit de m'exprimer et tu ne peux pas me censurer, d'abord de quel droit j'ai pas. Moi ou Jean ou Jean-Pierre, on ne peut pas te censurer, on n'a pas le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir de police de te censurer. Ah bon. Donc, par contre, si tu dis des choses qui tombent sous le coup de la diffamation,
eh ben, les gens me font un procès.
Les gens te font un procès.
Voilà. C'est tout.
Voilà. Bon. Donc,
Jean-Pierre,
je repose la question, le podcast, oui. Bon, alors, oui, à 100%, c'est quand même un des principes de base de l'Assemblée. Et ceux qui se sentent, gênés avec ce podcast, et ben d'abord, c'est signifiant. Signifiant, ça veut dire qu'ils n'ont pas envie qu'on écoute ce qu'ils disent. Donc
de fait, un langage de sourd.
Non, mais de fait, ils sont pas vraiment dans le concept de l'Assemblée. Et puis, ce qu'on peut leur dire, c'est l'apprentissage de la parole publique. C'est-à-dire qu'en public, ce qu'on dit, c'est entendu, mais ça peut tomber sous le coup de la loi. Alors, faut savoir ce qu'on veut. Si on veut rien risquer, on reste chez soi, on regarde le foot et puis c'est tout. Alors, le deuxième point, c'était le compte-rendu. Alors, le compte-rendu, là aussi, il y a différentes façons de voir le compte-rendu. Ce qu'on avait dit depuis le début, c'est le compte-rendu sera fait par une personne et ce compte-rendu n'engage que cette personne. Bon. Alors, c'est vrai que là aussi, il y a eu des commentaires là-dessus. C'est vrai que c'est... Bon, l'idéal d'un compte-rendu, c'est qu'il soit fait par une personne, mais qu'ensuite, ça tourne et qu'il soit validé par tout le monde. Mais alors là, effectivement... C'est du travail, on s'en sort plus. Voilà. Et c'est pour ça qu'on avait dit, ben, le compte-rendu sera à chaque fois le reflet... En fait, c'est plus qu'un compte-rendu, c'est presque un article. Hein. C'est le reflet de quelqu'un qui ça n'engage que lui. Bon. Donc ça, je crois qu'il faut bien que ça soit bien compris, que celui qui signe le compte-rendu... alors, il ne faut peut-être pas l'appeler compte-rendu, d'ailleurs. Ressenti de la part de monsieur machin.
L'idéal, c'est de demander l'approbation à l'assemblée suivante. Est-ce que vous approuvez ce compte-rendu?
Oui.
C'est ce qui se fait au conseil municipal et tout. On peut contester après. Ah non, mais je n'ai jamais dit ça. Non, voilà. Ce que vous avez écrit, là, il faut.
voilà le débat, effectivement. Alors, si on fait ça, ça veut dire que le compte-rendu, il n'est pas en ligne 15 jours avant, il est en ligne
15
après.
15 jours après, oui.
15 jours après. Et puis ensuite, il y a une partie de la séance qui consiste à débattre du compte-rendu. Alors, mon opinion personnelle par rapport à ça, c'est qu'à partir du moment où on a le podcast, hein, bon, ça me paraît être du travail vraiment redondant d'aller encore parler sur un compte rendu.
On passe notre temps après dans la sémantique des choses.
Non, et puis à partir du moment où on a l'intégralité, bon, un compte rendu c'est fait pour synthétiser. On le soumet à l'approbation, on le fait tourner lors de l'assemblée suivante, parce qu'on veut que chaque mot soit bien pesé et que ça reflète bien le truc. Mais à partir du moment où on a un podcast, hein, celui qui veut vraiment être sûr de ce qui s'est dit exactement, il va écouter le podcast. Donc, moi je pense que le compte-rendu, c'est quelque chose qui ne doit pas être redondant avec le podcast. Soit il n'y a pas de compte-rendu, soit il faut que ça soit quelque chose qui apporte autre chose. Si c'est un simple résumé du podcast, voilà ce que je pense. Maintenant.
Alors, l'idée que tu inspires là, il faut pas l'appeler compte rendu, il faut l'appeler article. Comme un journaliste fait un article.
C'est ça.
Il fait un article sur le, je sais pas moi, un truc machin. Le journaliste, il est engagé aussi dans sa responsabilité. Mmh. Les gars de Mediapart, quand ils disent un truc. Ils sont partisans d'un point de vue. Et moi, je trouve que c'est bien que, par exemple, si c'est moi qui fais le truc, ben, que j'y mette mes idées, j'y mette mon argumentaire. Après, libre à celui qui conteste mon article de citoyenneté, d'en faire un contre et de le publier.
Oui.
Jean-Pierre.
J'ai eu le problème au moment des élections, il y a 2 ans, du compte-rendu par le journaliste du GSL de notre réunion ici, où j'ai dû m'expliquer auprès de mes voisins par rapport à la consommation de viande.
Oui, je me souviens.
Je suis un paysan producteur de viande. Enfin, j'étais un paysan producteur de viande, mes voisins sont des producteurs de viande. Et on avait un peu débattu sur la quantité potentielle. Avec le développement du véganisme aujourd'hui, oulala.
Alors, le problème de l'article que va faire un journaliste, mais pas n'importe quel, c'est du GSL. Vis-à-vis du grand public, l'article qu'il y a sur le journal, sur le GSL, le journal local, c'est censé être une voix officielle. D'où le problème, lorsque le journaliste ne restitue pas vraiment. Bon, et combien de fois j'ai eu des problèmes avec Michel Jugery sur des articles, mais bon, simplement un compte-rendu qu'il faisait d'une réunion du comité des fêtes ou autre, et je dis, attends Michel, non, je ne suis pas d'accord. Et je te demande de faire passer un. Bon. Donc, voilà. Alors, mais lorsque c'est un membre de l'Assemblée qui va faire un compte-rendu, et Jean-Louis dit, il faudrait trouver un autre nom, parce que ça pourrait être l'œil l'œil de Jean-Pierre, trouver quelque chose et que les gens comprennent bien que c'est, alors non pas un article fait par un journaliste officiel, mais que c'est un participant, un participant qui fait son petit blabla par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de factuel, on ne peut plus factuel, c'est le podcast. Plus factuel, c'est impossible.
Si, il y a la vidéo en plus. Parce qu'on parle avec des mots, le podcast enregistre des mots, mais il y a le.
On ne voit pas qui c'est.
C'est anonyme. C'est des voix. Enfin, sauf si tu donnes la parole à Jean-Pierre, tu donnes à Jean, à Marie-France. Mais la vidéo, parce que on parle à 17% avec ses mots, mais on parle à 70% avec ses gestes et ses yeux.
C'est plus valable.
C'est beaucoup plus fort.
Mais c'est plus valable.
Mais
parce qu'avec des programmes informatiques, on peut faire n'importe quoi, n'importe qui.
Mais avec les podcasts aussi, on peut changer les mots. À la limite, un gars qui est fort en informatique, il va changer
Non, mais bon, quand je dis censure, il va marquer à une action judiciaire. Hein, bon, c'est celui qui veut. Ce qu'on veut, c'est restituer au public quelque chose qui correspond à ce qui s'est fait. Donc on a le podcast, a priori, il n'est pas trafiqué, donc on n'en est pas là à trafiquer nos podcasts. Bon. Et donc on a le... On a le donc la source complètement factuelle. Et le podcast, c'est la source complètement factuelle, incontestable.
Est-ce que ça suffit ?
Alors, ça peut suffire.
Moi, de mon point de vue, oui.
Oui.
Est-ce que pas ce qu'on peut te dire, quand même ?
Oui. Oui. Non, oui. Voilà. Donc, Jean dit, le podcast, ça peut suffire. Ça peut suffire. Après, qui est quelqu'un qui... C'est vrai, ça apporte pas forcément que... Parce que de toute façon, rien n'empêche n'importe quel citoyen qui a participé à l'Assemblée ensuite de faire un article sous son chapeau, de faire un article, voilà. Et puis voilà. D'ailleurs. Bon. Donc, voilà, c'est vrai qu'il y a un petit biais, disons, pas biais cognitif, mais... bien un biais d'information, à savoir que ce compte-rendu, qui est l'œuvre partiale, enfin en tout cas un ressenti qui est personnel et particulier, n'apporte finalement pas, c'est pas qu'il n'apporte pas grand-chose, c'est qu'il n'est pas, il n'est pas signifiant de ce qu'on veut restituer, moi il me semble.
À moins... Bon, de le faire de façon partielle, moi quand je les ai faits, je les ai faits de façon...
Non, mais ça ne tient pas. Un rapport qui est fait d'une façon partielle, moi je ne comprends pas bien.
Il faut faire un article.
Le journaliste, lui, qui était là, de mon point de vue, le journaliste doit lire très exactement ce qu'on lui a dit, ce qu'on lui a donné. Il faut qu'il soit impartial. Il peut ensuite terminer, conclure avec une remarque perso. Oui, pourquoi pas. Ou en entrée. Mais... il doit donner le reflet exact de l'activité de cette assemblée. Et rien de plus, rien de moins.
Moi, les comptes rendus que j'ai faits, j'ai, il me semble avoir été assez partial.
Partial ? Impartial ou partial ?
Partial ou impartial ?
Impartial.
Impartial, c'est-à-dire en dehors de toute idée personnelle.
Il y a un appui toujours sur...
Bien sûr, je ne lis pas.
Non, mais un compte rendu, soit il est validé,
aussi,
soit il n'est pas validé. Voilà. Bon, le compte, et pour qu'il soit validé, c'est comme dit Jean, il revient à l'assemblée suivante. Voilà. Alors, on démarre la séance par le compte rendu
voilà.
Fait par monsieur Machin. Oui, mais attends, là, je ne suis pas d'accord avec ça. Là, hop, voilà. Bon.
Et
on y passe une heure.
On tombe dans le Tchaléco.
Oui, oui, parce
voilà,
que.
C'est pareil.
Effectivement, celui qui est un peu pinailleur, enfin. Tout le monde a vécu ça, tout le monde a travaillé dans des associations, on s'en sort pas avec les comptes rendus. Voilà. Donc, moi je serais assez partisan, oui, de s'en tenir au podcast et de pas faire de compte rendu. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une décision, hein, mais j'enclenche autre chose. Par contre, parce que, bon, dans l'Assemblée, il y a plusieurs actions. Il va y avoir des débats, on va débattre, et puis il y a un moment où on va voter des motions. Bon. Lorsqu'on vote des motions, bon, ça,
c'est
précis. Ouais, mais à ce moment-là, c'est un compte-rendu, c'est pas un compte-rendu, c'est un, comment on appelle ça, c'est publication, en fait, notification de l'Assemblée. L'Assemblée du temps a voté telle et telle motion, tac, 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 tac. Là, on se met d'accord,
oui.
Ici, sur le moment. Et donc, si oui. C'est suivi des faits,
on
doit envoyer, comme par exemple, je pense à quelques assemblées qui ont lieu les fois précédentes, quand on avait décidé d'écrire au maire pour lui demander... pour lui demander la notification de l'ingénieur des bâtiments de France qui avait imposé les portes. Bon, voilà, on décide ça. Bon, là, on peut le noter, c'est une notification d'assemblée. Mais Moi, il me semble qu'on devrait s'en tenir au podcast et ne pas faire de compte-rendu parce que c'est un peu redondant avec le podcast. Mais par contre,
oui, mais...
Par contre publier les motions.
Voilà, parce que le podcast, c'est 2 heures d'écoute.
Oui.
Alors qu'un compte-rendu, c'est 3 minutes de lecture.
Oui.
Enfin, 3 minutes et demie ou 4 ou 5, peu importe. Mais enfin, voilà, on y consacre. Alors, écouter un podcast en entier... Non, j'ai pas le temps. J'ai...
Oui, c'est sûr.
Hein? Alors que lire le compte rendu, le truc, machin. Ah, ouais.
Alors.
Oh, bon, ça va.
Alors, ça va. Les comptes rendus, ça varie, hein, selon les organisations. Oui. Moi, j'ai vu des comptes rendus. Alors, un tel a dit, Michel, Jean-Pierre, Bertrand. Bon, moi j'ai toujours dit c'est pas des comptes rendus ça. Hein. Bon. Un compte rendu, c'est un compte rendu de décision. Voilà. On a décidé ça, ça, ça et ça. Et du coup, effectivement, alors là n'importe qui peut faire le compte rendu,
ouais.
Et on peut le valider en fin de séance. Les choses qu'on a les motions, puisque c'est vrai qu'on a des. On débat sur des motions, et puis après on fait des débats généraux. Les débats généraux. Ah, c'est très difficile de faire des comptes rendus. Autant écouter le podcast. Si on dit un tel a dit, oui, mais un tel a dit, puis un tel lui a répondu en disant que ceci, en disant que cela.
Bon, enfin, lire 2 pages. Oui, enfin, oh, moi, je suis d'accord sur le principe aussi. Faire un compte rendu factuel.
Un compte rendu des décisions.
Ce qui n'interdit pas de faire un article personnel avec un ressenti particulier.
Ben oui. Alors.
Et puis le podcast pour.
Moi, pour je trouve que ça enrichirait. Notre activité, si des participants à certaines assemblées où il y a des sujets qui ont été particulièrement intéressants ou explosifs ou bref, enfin, d'actualité, ensuite pondent un article qui va apparaître sur le JSL, sur Couche Info ou sur News, Mention News ou sur l'Informateur de Bourgogne, enfin bref, hein, ou sur le Creusot Info, voilà. On passe à l'ordre du jour proprement dit. Alors, il y a des sujets qui sont proposés. Il y a une motion numéro 4, parce que jusqu'à présent il y a eu 3 motions qui ont été votées, donc je pense que c'est bien qu'on les numérote dans l'ordre. Libellé de la motion, à propos du rôle constitutionnel de l'Assemblée citoyenne locale, c'est-à-dire de nous. La Constitution française stipule que tous les citoyens ont le droit de suivre par eux-mêmes l'emploi de la contribution publique. C'est l'article 14 de la DDHC, c'est la Déclaration de l'homme, des droits.
Non, des devoirs.
Non, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Déclaration des droits de l'homme. Ça s'appelle Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Il n'y a pas de devoir.
Non.
Elle n'a pas été faite. On l'a un peu oubliée.
Là ?
On l'a un peu oubliée, cette déclaration.
Non, mais la déclaration des droits, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 fait partie de la Constitution de 1958.
Oui.
Hein, voilà. La Constitution de 1958 comporte 4 textes. Le texte proprement dit du 4 octobre 1958. Auquel est annexé, mais en tant que partie intégrante de la Constitution, la DDHC de 1789, le préambule à la Constitution de 1946, c'est-à-dire la Constitution qui était avant celle de 1958, mais que le législateur a décidé, enfin, a jugé bon de conserver.
Oui, moi je trouve que c'était bien ainsi.
Bon, mais ça, c'est un débat. Et puis la Charte de l'environnement qui a été annexée en 2005. Alors, ce droit constitutionnel, le droit défini dans l'article 14 de la DDHC, fonde l'un des objectifs de l'Assemblée citoyenne, et de nous, au niveau local, qui est celui de veiller au bon emploi par la municipalité, la communauté de communes, le département, la région, le bon emploi des impôts locaux que payent les citoyens. C'est ainsi que l'Assemblée citoyenne locale, c'est-à-dire nous, est fondée. A lancé une alerte chaque fois qu'elle s'interroge sur une utilisation des finances publiques possiblement non engagées dans l'intérêt général ou sans qu'une étude préalable suffisante ait été engagée pour en garantir un bénéfice tangible et durable pour la collectivité. C'est-à-dire que le rôle d'une municipalité, hein, c'est quand même de faire des choses qui sont utiles à la collectivité. Cette alerte se traduira généralement par une communication à l'instance concernée, sous forme selon le cas. Donc là, on reprend nos trois types d'intervention auprès de la représentation, selon le cas, sous forme de questionnement, de critique argumentée ou de suggestion. Donc, bon, c'est moi qui ai proposé cette motion, parce qu'elle définit bien l'un des rôles que l'un des rôles de l'Assemblée citoyenne locale, hein, c'est en fait de s'attacher à respecter ce qui est écrit dans l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, c'est-à-dire de, si on le juge bon, de suivre l'utilisation de la contribution publique. La contribution publique, c'est la dépense.
Voilà. Éviter les dérives.
C'est-à-dire éviter les dérives, tout simplement.
Il faut les dénoncer, tout le monde.
Oui, mais bon, pas forcément. L'objectif n'est pas forcément de dénoncer. L'objectif est de suivre. De suivre, si tant est que les participants aient envie de le faire. Parce que l'Assemblée peut avoir cette possibilité, mais elle peut éventuellement ne jamais l'utiliser. Si personne ne juge nécessaire d'aller demander des explications sur tel et tel agissement de la municipalité, on ne le fera pas. Voilà. Mais qu'on sache bien que l'Assemblée citoyenne est là, entre autres, cette vocation.
Alors, par exemple, mais suivre, ça veut dire avoir des indicateurs. Avoir des indicateurs, est-ce que ça peut être des indicateurs économiques, des indicateurs de moralité ou des indicateurs de sociaux? C'est-à-dire, par exemple, suivre, je parle, bon, en analyse financière, quand on étudie une reprise d'entreprise ou quoi que ce soit, on regarde, par exemple, son endettement. On regarde des choses comme ça. On vérifie les ratios économiques, la cohérence de ces ratios économiques dans le temps. Puis on voit si ça monte, on voit si ça descend, on voit si ça coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Et à ce moment-là, voilà, mais il faut que ça soit basé sur quelque chose de palpable. Donc ça veut dire que, parce que moi j'ai demandé par exemple à la commune de Couches, en tant que commerçant, d'avoir des renseignements sur un dossier de l'installation d'un panneau, je m'adresse à une boîte noire. Alors, j'imagine que dans ce cadre-là, je vais demander les comptes de la commune des anciens maires, de l'avant-dernier maire et du dernier maire. Parce que moi, je veux être maire, et puis je veux avoir des bases solides d'analyse de la finance, de cette finance publique qui nous gouverne, pour pouvoir avoir un projet. Vous comprenez? Donc, quand je vais demander les comptes sur les deux derniers ou trois derniers exercices, ce n'est pas une boîte noire que je vais avoir de moi, ça sera un cercueil noir. Alors, suivre, ça veut dire, est-ce que moi je le comprends comme ça, suivre. Alors après, il y a des indicateurs sociaux. Suivant la pyramide des âges, on investit dans des choses qui correspondent à une. Si on a dans une population que des jeunes, on investit dans une école. Si dans une population.
On fait des études. On a. Non, là, je pense que. Enfin, il n'y a que moi qui le dis, mais moi, je conteste ce que tu dis, parce que tu nous embrouilles. Enfin, de mon point de vue, tu m'embrouilles.
Non, parce qu'écoute. Moi, c'est pour être clair.
Oui, alors là, tu es à côté. Mais c'est pas grave.
Dis voir pourquoi aussi.
Je suis au problème qui vient d'être évoqué. Est-ce que l'administré a droit de regard sur les comptes de la commune? Est-ce bien je suis bien dans le sujet?
Oui.
Bien.
L'article 14.
Je termine.
Vas-y.
On envisage de creuser un fossé à tel endroit parce que les eaux s'écoulent. Enfin bref, il y a un administré qui réclame un fossé. On finance le conseil municipal, décide donc la création des travaux sur ce fossé. Et ensuite, deux administrés viennent se plaindre qu'on met de l'argent à des gens à titre privé. Donc il y a lieu à discuter, à critiquer, etc. Voilà moi, ce que, tout bêtement, ce à quoi je pense. Mais dans tous les cas, ça n'aboutit jamais, me semble-t-il. Pourquoi? Parce que dès lors que le conseil municipal il décide à l'unanimité de creuser, ou même à la majorité, peu importe, à creuser ce fossé, ben on a creusé le fossé dans l'intérêt de la collectivité. Et non pas de... Voilà, c'est ça le problème.
Alors peut-être si c'est intéressant ce que tu dis. Peut-être dans l'intérêt de la collectivité.
De la collectivité, voilà. Mais peut-être il est possible que ce fossé, s'il n'est pas creusé, justement, ça bouge tout à l'égout qui est derrière, qui est plus loin, etc.
Dans l'intérêt de la collectivité.
C'est dans l'intérêt de la collectivité. De même si on fait un stade ou simplement un terrain pétanque, on est 5 bédouins à jouer de la pétanque. C'est pas mon cas, mais en fait, je veux dire, il y a 5 Pékins qui veulent jouer à la pétanque. Ils demandent la création d'un terrain. Et le conseil municipal peut très bien être. Mais oui, pourquoi pas? Ça va attirer des gens. C'est un argument de plus pour venir s'installer à gauche, etc. Et d'autres vont lever les bras au ciel parce qu'ils vont dire, qu'est-ce que c'est? Pour 5 bédouins, on dépense des millions et des millions. Mais tout dépend de la manière dont on lance le regard sur l'intérêt de la commune.
Oui. Alors, ouais,
moi, je ne sais pas. Oui, je t'en prie.
Est-ce qu'il est juste que pour 5 bédouins, on dépense 90% du budget de la commune? Non, mais c'est ça. Suivre, ça veut dire ça aussi.
Attends.
Parce que si, par exemple, accouche le sport national, c'est le rugby. C'est le rugby. Donc, la commune, je veux dire, si elle a un budget de 100, puis qu'il y a 50% de rugbyman...
Oui, mais toi, tu commences à dire des
non,
chiffres.
Non, mais dans le budget alloué aux manifestations sportives, on respecte le ratio... Je dirais de 50%. Ça, moi, déjà, ça me paraît. Après, ça peut naviguer.
Attendez. Là, on est déjà dans un dossier.
Non.
On est dans un dossier. On parle.
Je parle en général. Je dis,
oui, non, mais
à titre d'exemple.
Oui, mais on est déjà dans les exemples. Moi, je voudrais qu'on reste au niveau des principes. Cette motion, motion numéro 4. Elle s'intitule « À propos du rôle constitutionnel de l'Assemblée citoyenne locale ». C'est nous, l'Assemblée citoyenne locale. Bon, c'est une motion qui affirme notre rôle constitutionnel. On n'en est pas au rugby ou aux tranchées, etc. Bon, elle affirme notre rôle constitutionnel. On dit, nous, ACL, nous avons un rôle constitutionnel. Il est écrit dans la Constitution. Il est à l'article 14 de la DDHC. Qui dit que tous les citoyens, et que chaque citoyen, et que donc un groupe de citoyens, a le droit de suivre l'utilisation de la contribution publique. Alors en termes clairs, ça veut dire a le droit de regarder comment une municipalité, ou une région, ou une nation dépense l'argent de nos impôts. Ça, c'est le rôle constitutionnel, c'est notre rôle constitutionnel qu'on affirme. C'est-à-dire qu'il y a, quelque part dans la Constitution, un droit qui est donné aux citoyens de suivre. Et c'est quelque chose qui était remonté à plusieurs reprises lors des grands débats que nous avions faits ici. Spontanément, lorsqu'on parlait de la citoyenneté, il y a de nombreux participants qui ont dit « mais il faudrait qu'il y ait des comités citoyens qui suivent ce que fait la représentation, etc. etc. » Bon, eh bien, ça existe. C'est possible, puisque c'est écrit dans la Constitution qu'on a le droit de le faire. Et nous, ce qu'on dit, c'est que nous nous emparons de ce droit.
C'est ça.
Nous emparons de ce droit et nous le structurons, nous y mettons une forme. Voilà, c'est une forme, il y a un lieu, et il y a une fréquence bimensuelle, il y a un horaire. Et là, c'est un lieu où le citoyen va pouvoir, entre autres, suivre l'utilisation de la contribution publique. Après, on va voir si sort de fossé et tout ça. Bon, mais c'est le principe qui compte. Le principe, c'est qu'on affirme qu'on a le droit de faire. On affirme que si on se réunit pour, entre autres, parce que c'est pas notre seule vocation, mais si on se réunit pour vérifier que l'argent public, que les impôts locaux notamment, sont utilisés comme il faut, ou en tout cas qu'on donne notre avis dessus, on agit conformément à la Constitution. C'est ça, l'objet de cette notion. Après, on ne rentre pas dans le détail.
Mais c'est marrant qu'on soit obligé de rappeler ça alors que c'est... Alors que... Non mais... On est obligé de rappeler C'est fonctionnement de base.
Alors, c'est...
Parce qu'il y a des dérives.
Non, c'est...
Si, les gens ne respectent pas la Constitution. Non, laisse-moi finir. Je m'adresse à une boîte noire. Ben, c'est ça. Les gens ne respectent pas ce devoir de l'article 14. Et est obligé de le rappeler. Alors nous, on est obligé de rappeler des choses qui devraient être évidentes.
Jean, mais tu voulais t'exprimer.
Pour des représentants de notre élu.
C'est une des principales choses qu'ont revendiqué les États généraux en 1789.
Oui, oui.
Et le gros débat qu'il y a eu, parce que ce droit n'existait pas avant.
Oui, 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 oui.
On payait des impôts, nos ancêtres payaient des impôts.
On n'est pas d'autre regard.
Et vous n'avez aucun droit de regard dessus. Donc aujourd'hui, depuis 1789, nous avons un droit de regard. C'est 1% de la population qui va regarder.
Oui, mais ça ne fait rien, c'est justement...
Ça peut être suffisant. Alors, à Hong Kong, ils sont peut-être un tout petit peu plus de 1% actuellement.
Exactement.
Puis à Moscou, je ne sais pas quel pourcentage, parce que pour savoir les chiffres à Moscou, c'est un peu compliqué. À Berlin, en 1934, c'était 0%.
Oui, alors, je ne saurais dire mieux que Jean-Pierre, et on ne va pas vous faire un cours sur la constituante de 1789 à 1791, puisque pendant 2 ans, il y a eu l'apprentissage du travail parlementaire, et on a petit à petit tricoté les droits les uns après les autres, et le principal artisan de tout ça, il faut bien le savoir, s'appelait quand même Maximilien Robespierre. Bon. Tu dis dérive. Tu es déjà dans la polémique, Jean-Louis. Oui. On en est à... Comment se fait-il, effectivement, qu'il y a un droit qui existe et que le citoyen ne l'utilise pas? Voilà la bonne question. Alors, parce que la dérive, elle vient du fait qu'étant donné que le citoyen n'utilise pas ce droit, n'utilise jamais, bon, ben, la représentation a pris l'habitude de dériver...
Pourquoi c'est la
gauche,
dire...
Oui, il y avait la gauche caviar et maintenant il y a les écolos homards.
Écolomards.
Bon. Donc là, on ne peut pas être taxé de diffamation parce que ça a été prouvé qu'il mangeait du homard. Hein. Donc là, on est tranquille, on peut le dire hein, sur le podcast. Alors, la question intéressante, c'est pourquoi, Jean-Pierre, tu dis il y a 1% à peine, bon, on a mis pendant 2 ans, entre 1789 et 1791, on a mis tout ça en place, et puis personne ne s'en sert. Mais on est là.
On est toujours là.
Voilà, on est là pour essayer de faire progresser, ben, par l'éducation populaire, que les gens, ici et là, s'emparent de ce droit qui existe. Pas forcément systématiquement pour aller mettre des bâtons dans les roues, c'est pas ça, mais que déjà l'information de ce droit existe. Puisque je me souviens d'une réunion il y a quelques semaines, où je crois que c'était Diab qui disait, mais ce droit-là, il existe, mais c'est un devoir ou c'est un droit? J'ai dit, attends, non, c'est pas un devoir, parce que là, si c'était un devoir, imagine que, étant donné que toi, Jean-Louis Ruc, tu ne vas pas mettre ton nez dans les affaires de la municipalité, tu serais... coupable de ne pas le faire.
Absolument.
Bon, on n'en est pas là. Ça n'est qu'un droit. Bon. Et bien voilà, bon, c'est tout. Donc on rappelle, ce n'est pas une déclaration de guerre, on rappelle tout simplement que ben, on s'est constitué en... Enfin, il est... C'est pas... On s'est constitué, là je retire immédiatement ce que j'ai dit, il y a un lieu ouvert à tous où on peut venir réfléchir et donner son avis sur l'utilisation des finances publiques. Donc, cette motion numéro 4, est-ce que vous êtes d'accord pour l'adopter?
Oui.
Qui est contre?
Non.
Qui s'abstient? Bon, ben, adopté à l'unanimité. Voilà. Après, il y a une proposition de débat. Alors, on est toujours le même. Hein. Alors, c'est un débat. Hein. C'est un débat qui, à mon sens... peut être ouvert aujourd'hui, mais qui va nécessiter qu'on travaille bien. Quel est le rôle exact d'une municipalité?
D'une municipalité ou d'un conseil municipal?
D'un conseil municipal.
Voilà.
Bien, c'est bien. Merci Jean. D'accord, oui. Non, mais c'est voilà. Quel rôle? Oui, parce que municipalité, ça ne veut rien dire. Quel est le rôle exact d'un conseil municipal? Quels sont ses pouvoirs, ses limites, et dans quel domaine peuvent-ils s'exercer? Dans quel domaine les pouvoirs d'un conseil municipal peuvent-ils s'exercer? Que dit la Constitution? Que dit le Code des collectivités locales à ce sujet? Donc, on a une instance qui s'appelle le conseil municipal. Alors, on va parler du conseil municipal, mais on peut parler du conseil régional, du conseil...
communautaire.
Oui, on a parlé de l'Europe. Bon, bref, on va parler pour l'instant du conseil municipal. Quels sont les pouvoirs du conseil municipal? Bon, déjà, pour poser cette question qui paraît simple, avant déjà, quel est le rôle exact? Quel est le rôle exact du conseil municipal? Par exemple, si on fait micro-trottoir et qu'on pose la question aux gens, quel est le rôle d'un conseil municipal? On va avoir des gens qui vont regarder leur pompe, sérieusement, avant de s'exprimer.
C'est la gestion.
Voilà. Bon, alors, non, on n'est pas là pour un débat, simplement, savoir si vous êtes d'accord, ce qu'on appelle la question préalable, savoir si vous êtes d'accord pour qu'on engage ce débat. Donc, ça veut dire qu'il faut réfléchir sur le rôle. Ça veut dire quels sont les pouvoirs? Est-ce que le conseil municipal, les pouvoirs illimités? Illimité. Est-ce que ce débat semble intéressant? Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'il y a des limites au pouvoir? Dans quel domaine? Est-ce qu'un conseil municipal peut intervenir dans n'importe quel domaine? Voilà. Que dit la Constitution? Et que dit le Code des collectivités locales? Parce que pour répondre à ces questions, c'est pas le truc qui va sortir. La question, c'est pas à votre avis, qu'est-ce que devrait. C'est pas ça la question. C'est un autre débat.
C'est un autre débat,
si on réécrit la Constitution après. Mais la question n'est pas à votre avis, quel doit être le rôle d'un conseil municipal, c'est savez-vous ce que dit la Constitution? Et ce que dit le Code des collectivités territoriales en matière de définition du rôle des conseils municipaux, en matière de définition des limites de son pouvoir et de son domaine, de ses champs d'action. De quoi il a le droit de s'occuper, de quoi il n'a pas le droit de s'occuper. Est-ce que vous le savez?
Moi, je ne sais pas.
La réponse est non.
La
réponse est non. Alors, toute la dimension de cette problématique, c'est que il s'agit d'un pouvoir qui est à la fois exécutif et législatif, un pouvoir municipal, parce que dans le conseil municipal, on a des décisions qui relèvent de l'exécutif. Par exemple, on va construire une EHPAD. Et puis, des décisions qui relèvent du législatif, c'est-à-dire on va éditer une règle coercitive. Alors qu'on n'a pas le droit de brûler des choses, ou on n'a pas le droit, donc on ferme telle route ou tel chemin. Voilà. Bon. Donc c'est un élément coercitif quand même assez important. Mais personne ne sait quel est... sur quoi ça se sent. Donc, il n'est peut-être pas inutile pour une assemblée citoyenne qui se donne pour mission de faire ce que lui permet de faire la Constitution, de commencer déjà par bien savoir par quel texte législatif est encadré le conseil municipal. Je ne vais pas faire preuve d'érudition particulière, en parlant juste par la Constitution. La Constitution, elle est là, la Constitution française. Ça, c'est l'article 72. Les articles 72 et consorts. On sera amené à étudier, si on est d'accord pour engager ce débat. Voilà. C'est le titre 12 des collectivités territoriales, qui comprend l'article 72, l'article 72.1, 72.2, 72.3, 4, 5, 71. Vous voyez tout ça.
S'il y a déjà 5 poches et que c'est bien défini.
Oui, mais dans ces 5 pages, il y en a 4 qui sont sur la francophonie. qui concerne Mayotte, la Nouvelle-Calédonie. Ah, oui. Bon, il y en a une sur ce qui nous intéresse. Voilà. Bon. Alors, a priori, c'est dans la Constitution qu'on doit trouver la réponse au mot rôle. À quoi ça sert ? A priori, c'est le temps qu'on devrait le trouver. A priori. Hein. Et puis ensuite, on a le code des collectivités territoriales. Alors là, 7000 articles. Alors là, il y a un petit extrait. Voilà, c'est un peu en vitesse sur Légifrance. Hein. Sur Légifrance, alors, information et participation des habitants. Je vous le lis pas.
Et participation.
Information et participation des habitants. Voilà, donc il y a trois pages. Services publics, industriels et commerciaux. C'est-à-dire qu'une mairie, elle peut faire du
business.
Business, hein. Ouais, bon. Deux pages. Organes de la commune, attribution du maire et des adjoints. Conditions générales d'exercice, attribution exercée au nom de l'État. Ce sont des attributions au nom de l'État. Indemnité de fonction, donc rémunération des maires.
Pour ouvrir un peu, parce que je suis enceinte, mais j'ai des bouffées de chaleur. Faire un petit coup.
Moi, je crois que c'est un excès de démocratie qui te monte.
C'est un excès de démocratie.
Ah bah c'est ouvert. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui est très, très assez intéressant aussi, c'est ça, c'est les indemnités. Parce que, alors c'est dans le code. Les salaires sont gratuits.
Oui.
C'est-à-dire que la fonction de maire et d'adjoint, c'est gratuit. Ça s'appelle indemnité. Alors, il y a des remboursements des frais, mais ça s'appelle indemnité. Donc, on a les barèmes ici.
Non, mais ils ont leurs frais remboursés plus une indemnité.
Voilà.
Un forfait, quoi.
Un forfait.
Une indemnité, c'est un forfait.
Oui, mais ça ne s'appelle pas salaire, ça s'appelle indemnité. Donc là, on a un barème.
Est-ce que c'est soumis à l'impôt ?
Bien sûr. Donc nous avons un barème, moins de 500 habitants, de 500 à 1000, de 1000 à 4000, de 3000 à 3005, de 3005 à 4000, de 10000 à etc. Et vous avez donc là-dessus les rémunérations des maires et des adjoints. Donc là, voilà, c'est pour savoir, c'est tout. Alors, on a vu tout à l'heure, il y avait attribution exercée au nom de l'État et là, attribution exercée au nom de la commune.
C'est pas mon truc, hein, d'ouvrir le frigo pour rafraîchir la pièce.
Oui, il marche pas.
C'est du gâchis.
Il marche pas. Non, mais j'ai regardé, il faut qu'il y ait que la commune puisse offrir des boissons à ses citoyens.
Il y a des boissons là ?
Non.
Il n'y a rien.
Il est éteint.
Oui. Ah, il est éteint. Ah, mais il y a un petit peu d'air frais qui rentre.
Là, il y a deux fenêtres ouvertes là, puis un petit courant d'air avec l'autre.
Bon.
Non, il marche un peu, mais au minimum.
Donc,
derrière, c'est chaud.
Il est débranché.
Il faut le débrancher, ben oui.
Non.
Alors, si vous êtes d'accord pour que ce débat soit engagé, hein. Je me propose de vous mettre en lien les articles de la Constitution relatifs aux collectivités territoriales et puis les principaux articles que je viens de vous... du Code des collectivités territoriales. Donc on le regarde un petit peu. Et puis, bon, c'est un débat qu'on peut pas forcément faire d'un seul bloc, mais mener par étapes. Bon, c'est validé, ça, comme idée ?
Oui, je pense que c'est une bonne idée, parce que... Qui sont nos maîtres, c'est intéressant de le savoir. Qui sont nos maîtres ?
Oui, ben, là, c'est les derniers.
Qui sont, ah, mais
c'est, ça évolue.
Qui sont nos maîtres ?
Maîtres.
Ah, maîtres. Ah. Qui sont nos maîtres ?
Avec les communes, alors, communes, ça a beaucoup évolué.
Ben, très bien, c'est formidable. On avance. Hein. Alors, ça, c'était les sujets généraux. Sujets locaux. Il y en a deux. Il y a réponse de la mairie aux motions numéro 1 et 2. La motion numéro 1, c'était pouvez-vous nous communiquer la lettre de l'ingénieur qui a imposé ses portes, voir un peu sur quoi il se base. Et la réponse numéro 2, c'était une suggestion adressée au conseil municipal de réfléchir à l'engagement d'une démarche pour obtenir un label Ville et Histoire pour Couche. Voilà. Donc ces deux motions ont été envoyées à peu près un mois. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'on attend encore ou on fait une relance?
On attend encore.
Je pense qu'il faut attendre. Mais il ne faut pas attendre. Justement, j'allais dire la réaction de dire bah, c'est septembre. Non, avant septembre. Oui, pour qu'on ait la réponse début septembre. Écoutez, vraiment, si on relance en septembre, on aura la réponse au mois de novembre.
Mais vous êtes marrant. Vous êtes marrant. Parce qu'il faut que vous ayez la réponse en septembre, il faut absolument l'exiger. Il vaut mieux essayer de comprendre comment fonctionne une administration, enfin, quand même. Nous sommes en période estivale. Le conseil municipal, si ça se trouve, il ne se réunit déjà pas pendant tout le mois d'août. Peut-être que même au mois de juillet, je ne sais pas, ils ont dû régler le 14 juillet quelques jours avant, et ils vont prendre le boulot, peut-être.
En septembre, pas.
Peut-être me tromper, mais ça m'étonnerait. Donc il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas être.
Les hommes généreux, compréhensibles.
Alors.
C'est fantastique.
Est-ce qu'on a le droit de faire un aparté? Moi, j'ai demandé à la sous-préfecture des statuts, par exemple, au mois de janvier. Au mois de février, j'aurais une réponse, c'était des statuts d'autre chose. Moi, quand j'ai pris... Donc, j'ai envoyé une seconde lettre. Vous vous êtes trompé, je vous demande bien, et en gros caractère, mais courtoisement, je demande, on me renvoie les statuts que j'avais déjà reçus précédemment. Je réécris une troisième
courtoisement, fois. Courtoisement.
Oui, toujours.
Courtoisement.
Je réécris une troisième fois. Je réécris une troisième fois. On vous envoie les statuts, mais nous vous faisons remarquer que nous vous les avons déjà envoyés deux fois. C'est-à-dire qu'ils me font la réflexion que j'ai déjà réclamée. Donc, que fais-je? J'envoie une requête au sous-préfet de Chalon et je lui explique le truc. Et début juillet, il me répond, effectivement, je comprends que vous faites ceci, vous faites cela. Il m'a donné tout ce qu'il fallait faire pour obtenir ces statuts qui, du fait que les statuts de la dite association n'avaient plus d'activité depuis une trentaine d'années, quelque chose comme ça, ça avait refilé aux archives. Donc, vous écrivez et vous demandez que ça se trouve dans la boîte 16, sur la ville de Couche, aux archives départementales situées à Mâcon. Donc j'envoie une lettre, on m'en envoie une seconde encore, donc ça fait un sixième courrier. Si
Il te bat.
Oui, mais j'ai autant de comment on dit, pas de perspicacité, de...
Persévérance.
De persévérance, ouais, chercher le mot.
Donc, si vous m'envoyez 5,50 euros pour, à titre de, ouais, pour les frais, les photocopies, etc. Donc, s'il est, m'ont valu quand même de recevoir les statuts. Donc, non, mais tout ça, très simplement pour expliquer que l'administration, elle est lourde. Même celle qui est municipale, elle est lourde. La secrétaire générale aussi, sans doute, était en congé, parce que ce n'est pas le maire qui va faire ça, me semble-t-il, c'est la secrétaire générale. S'il n'est pas là, s'il a dactylo, il manque de langue, il n'y a plus d'angle dans la machine, le temps qu'on était... C'est tout. Il y en a pour un mois, deux mois. Non. Alors, est-ce que je me trompe? Il y en a un mois, deux mois.
Voire trois.
Jean-Pierre veut...
Moi, mon maire, la solution, il a sur sa messagerie, tapez le 15, tapez le 17, tapez le 18, et puis...
Si vous voulez ceci, tapez le 20.
C'est à peu près ça que ça veut dire.
Ça, c'est pénible, par contre.
Mais parce que les gens...
Alors, oui, bien sûr, on ne peut pas exiger l'immédiateté. On y va d'accord. Ceci dit, quand même, là, je voudrais revenir de façon très précise sur ces deux exemples. Bon, la lettre a été envoyée il y a un mois.
Bien. Mais la date, quand même, s'il vous plaît.
Il y a un mois.
Pile.
Oui. Alors, les deux demandes ne sont pas de même nature.
Hein. Ben voilà.
La première demande, c'est... Il y a cette histoire de porte de la mairie qui déplaît à la majorité de la population. On le sait, parce qu'il y a un sondage qui a été fait et les gens ont dit non, elle ne nous plaise pas. Et il paraît que c'est l'ingénieur des bâtiments de France qui a imposé. Bon. Alors, questionnement, hein, là on est dans la rubrique questionnement. On dit, pouvez-vous nous fournir la lettre de l'ingénieur qui vous a dit, monsieur le maire, vous n'avez rien à dire, c'est moi qui dis qu'on mettra ces portables. On voudrait cette lettre, s'il vous plaît, pour la regarder. Bon. Là, on est dans une demande qui ne nécessite pas la réunion du conseil municipal, qui nécessite simplement une action, disons, administrative ou bureaucratique, d'aller chercher une lettre, parce qu'on conserve les lettres, de leur faire une photocopie et de nous l'envoyer. Bon. Et donc, c'est quelque chose qui matériellement, objectivement, il y avait le temps pour le faire. La deuxième, évidemment, on n'est pas de même nature, puisqu'on demande si le conseil municipal serait intéressé par l'idée d'engager une procédure avec le ministère de la Culture pour dire les... Bon, là, il faut que le conseil municipal se réunisse, etc.
Décideur de bonjour, et peut-être est-il déjà très chargé.
Tout à fait. Mais ça n'empêche pas la municipalité, alors le maire ou la secrétaire, je ne sais pas qui, d'accuser réception de lettres en disant. Nous avons bien reçu vos demandes. Pour la première demande, j'ai pas eu le temps encore d'aller chercher la lettre qui est dans le tiroir numéro 3, numéro 4. Mais bon, je vais le faire un de ces jours. Et puis, la deuxième demande, on mettra ça à l'ordre du jour. Ou alors, tout simplement, nous n'avons pas l'intention de mettre ça à l'ordre du jour. Nous n'avons rien voilà, mais qu'on dise voilà, qu'on réponde quelque chose. Donc il y a une question de non-réponse voilà. Bon, ceci dit, on peut effectivement attendre, mais à chaque session, je pense qu'il faut reposer la question, est-ce qu'on attend encore ou est-ce qu'on envoie une lettre de relance, voilà. Que chacun prenne bien la mesure de cette petite chose, hein, mais qui quand même signifie quelque part signifiante de beaucoup de choses.
Autant je vous demande d'être indulgent sur la durée, sur l'attente, mais autant je suis inflexible également. Dès lors qu'on fait une demande à l'administration, on doit en recevoir la réponse. Ça, c'est sûr, il faudra
un accusé de...
une réponse.
Est-ce qu'on avait mis une enveloppe réponse pour que timbré.
Non,
ça ne se fait pas.
C'est avec nos impôts qui payent l'affranchissement. Il faut exagérer.
Bah oui, mais enfin, il faut qu'il fasse des économies.
Quand
on mange du homard, attends, tu te rends pas compte s'il ne pouvait plus manger du homard.
Non, Jean-Louis, tu vas attaquer en diffamation là. C'est monsieur De Rugy qui mange du homard.
Ah oui, c'est vrai.
Tu te trompes.
Le maire de Couches ne mange pas de homard.
Et sa femme qui mangeait du homard.
Il est allergique, lui, c'est ce qu'il a dit.
Non, mais s'agissant du maire, il peut très bien nous envoyer une lettre en nous demandant de faire un mandat de 1 ou 2 euros pour la photocopie, par exemple. C'est ce qui m'a été demandé, moi.
Aux archives, c'est courant.
Oui,
c'est normal, hein, parce qu'on n'arrête pas de réclamer maintenant.
Après, il y a les archives en ligne, hein, ça ne coûte rien.
Alors, on n'arrête pas de réclamer. Il s'agit de savoir, là on élargit un peu le débat, il s'agit de savoir qu'est-ce que c'est qu'un service public. Hein ? Bon, alors, un service public, c'est gratuit ou c'est pas gratuit ?
C'est
un débat énorme. Hein.
C'est quelque chose de gratuit. Le mot service dit gratuité. Enfin,
Jean-Louis,
des services payants.
Bah, oui, attends.
Non, mais à l'origine du monde. Le service, il est quand même gratuit.
Non, vous n'étiez pas là, on ne peut pas en parler.
La notion de service public n'est pas clairement définie dans la Constitution ni dans les codes juridiques. En France, on ne sait pas ce que c'est que le service public. C'est pas défini. On en a parlé avec les lois de Roland. Alors, proposition de motion numéro 5. Cette motion s'appelle audit.
On n'a pas répondu là.
Non, mais on a dit qu'on attend.
Bah, moi, j'aurais proposé de faire un petit courrier quand même fin août, enfin après le 15 août.
Eh ben, on verra. On verra pour les chambres. On verra à la prochaine réunion.
À la prochaine. Oui.
Ouais, on est le mois d'août, il faut pas. Avoir...
Et puis attendre pour le agriculture. Attendre un petit peu parce qu'effectivement, faut attendre le premier conseil, savoir ce qui.
Mais là,
qu'est-ce qui mouline ?
On peut considérer qu'au mois d'août, la France s'arrête, donc on va pas relancer.
D'accord.
Ça n'a pas de sens de relancer au mois d'août, quoi.
Ça n'a pas de sens.
Alors, ensuite, proposition de motion numéro 5. Cette motion s'appelle audit d'action communale. Dans le prolongement de la motion numéro 4, qui a défini notre rôle constitutionnel, dans le prolongement de la motion numéro 4 sur le rôle constitutionnel de l'Assemblée citoyenne, celle-ci envisage de mettre en œuvre un audit des principales actions du pouvoir municipal, notamment celles, les actions, qui ont engagé un volume substantiel de finances publiques. Par exemple, on pourrait dire, à partir de 150 000 euros, on fait un audit. C'est l'idée. Alors, attends, je termine. Cette démarche débuterait par une analyse détaillée des comptes rendus du conseil municipal des 12 derniers mois. Donc il faut éplucher les comptes rendus du conseil municipal des 12 derniers mois.
Ça doit aller vite.
Elle induira probablement, dans sa phase préliminaire, de demander un certain nombre de renseignements et de documents complémentaires à la municipalité. Donc l'idée, c'est de dire... avec la motion numéro 4, on énonce un principe, on va suivre, et la motion numéro 5, on se met un programme de travail pour l'année scolaire qui vient. On fait un audit des 12 derniers conseils municipaux. Alors, ils sont accessibles sur le site du conseil municipal. Enfin, bon, je les ai ici. Et puis, voilà. Donc, on étudie. Audit.
Ça te va, ça te convient ?
Non, mais moi, c'est pour moi qui compte, c'est l'ensemble. Mais 6 mois, les 12 derniers mois, 12 mois c'est court, 12 mois c'est rien.
Mais on commence par cela.
Non, mais je dirais que.
On va pas remonter à.
Non, ça fait 24 fois. Dans 3 ans, 36 mois.
Et 48.
Non, mais je dirais même. Enfin, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est même.
Ah mais on peut ajouter, oui.
Un maire, vous connaissez un maire qui s'appelait Cartieu. Il a été maire de Couches de 47 à 77.
47 à 77 ?
De 47 à 77.
30 ans ?
Il a été maire 30 ans. Monsieur Cartieu.
Ah bon ?
Ah bah, à Brion, monsieur Labonde a été maire 49 ans.
Hein ?
Oui, s'il a fait plusieurs mandats.
Eh bien, moi j'aimerais bien voir. Les comptes rendus de cette époque-là aussi, pour voir. Non, mais pour.
Oui, oui.
Mais c'est de la curiosité, c'est la racine.
Oui,
où est la racine?
Ah, mais ben,
c'est, ben, pas... dire, c'est comme un arbre, on le regarde, bon. On regarde la dernière feuille, en haut, allez, la poussée là.
Alors, on peut
mais
mettre.
Il y a le tronc, il y a les racines, il y a. Enfin, je veux dire, c'est...
Donc, on peut mettre, en commençant par les 12 derniers mois, sans limitation.
Oui,
mais sans limitation,
même,
de retour.
Parce que une partie de l'histoire de Couches, déjà, ce maire Cartieu qui était maire de 47 à 77. On rentre dans l'histoire déjà. L'histoire, c'est notre trajectoire. Donc, sur quelle trajectoire ? D'où elle part ? Où on est ? Ah, ben, on est comme ça, ou on est comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire ?
Ouais. Ah bah, écoute,
Et les archives de la municipalité, elles sont stockées où ?
Alors les
parce qu'on a les années 71, ok.
Les archives départementales, probablement.
Je crois. Oh ben bah, c'est dans à la mairie, je pense. Hein.
À un moment donné, ça doit.
Ça part aux AD.
Ça peut faire partie de notre travail. Bon, oui. Pour les 12 derniers mois, ils sont téléchargeables en ligne. Oui. Après, on peut demander.
Il doit y avoir un règlement aussi, hein. Oui. Parce que c'est pas n'importe qui peut se débarrasser des
archives. Ah oui, des archives, oui.
Ah oui.
Oui. Elles sont en ligne jusqu'en 1902 et là, comment on appelle ça, les trucs de population, là, jusqu'en 36.
Nous avons la réponse.
Il va à Chalon, hein. À Chalon, c'est pas compliqué, hein. C'est dans la zone verte là-bas.
Non, mais ça sera, moi, ça m'intéresserait de, oui. Ah, mais c'est, de regarder des choses de l'avant-guerre.
Ouais.
Voilà.
Recensement de population.
Tu ressens la philosophie.
J'ai eu l'opportunité, enfin j'ai eu la volonté et l'opportunité de pouvoir voir, parce que la municipalité de Toulon-sur-la-Loue a relié les délibérations du conseil municipal d'avant 1789. Et donc en particulier la délibération du 20 janvier 1789.
Ah oui.
Donc qui est la première demande pour le cahier de doléances était une demande
en vue de réunir les états généraux.
Donc il demandait qu'il y ait un vote par personne et pas par classe, et d'ailleurs c'est ce qui a eu lieu, qu'il y ait deux représentants, un représentant de la noblesse, un représentant
déjà en avance, hein,
et deux représentants de
à Toulon-sur-la-Roue.
Oui, oui, oui. Non, c'est en avance. Ben, le maire était un avocat de toute façon. Tous les élus du tiers état aux états généraux de Saône-et-Loire étaient tous des avocats.
Les hommes de droit, en quelque sorte. Voilà. Ça,
et dans cette délibération municipale, il y avait les conseillers municipaux qui étaient des représentants de classe professionnelle. Donc il y avait le représentant de la noblesse, le représentant de l'église, c'était le curé, et puis 14 classes sociales dans le tiers état. Donc la première, c'était les avocats, dont le maire, et c'est rédigé de sa main, et c'est super lisible.
Oui.
À la plume. Hein.
Plein et délié.
À la plume noire. Hein. Enfin, voilà, plein et délié. Il y a quelques mots, bon, quand on lit un peu le sens de la phrase, on arrive à comprendre le mot. Et puis, et la plus basse classe sociale, c'était le représentant des jardiniers. Voilà, il y avait les laboureurs, il y avait le gros paysan, le petit paysan, les tanneurs, les bouchers, enfin, etc., etc. Parce que avant 1789, on était toujours dans des représentations par corporation. Un syndicat professionnel, on dirait aujourd'hui, quoi, voilà, c'était dans ce système-là. Que la Révolution a supprimé. Puisqu'on mettait tout le monde au même niveau de droit de parole, mais tout le monde n'avait pas la même capacité de parole. Parce qu'on n'a pas mis en route l'instruction publique.
Merci.
Pour permettre à tout le monde d'avoir la capacité d'avoir la parole.
Oui, mais après, à la Constituante, hein, ils avaient tous le niveau. Hein.
Oui, bah, c'était tous des avocats.
Oui.
Donc,
ou journalistes. Ou... Donc.
J'ai même pu obtenir une photocopie. Une sorte
de... C'est ça, oui, mais remonter
dans le passé
sur les.
Il y a l'intérêt de certaines délibérations, je ne l'ai pas vue, mais je la cite assez souvent. Une délibération de 1840 de la municipalité de Hautain qui a refusé le PLM.
Oui, tu l'as déjà dit.
J'ai raconté celle-ci.
Paris-Lyon-Marseille,
qui ont refusé. Que ça allait amener des femmes de mauvaise vie, et que la petite municipalité de Dijon, parce qu'à l'époque, par rapport à Autun, c'était une petite municipalité.
Dijon
a dit, nous, on veut bien que le train...
On veut bien les femmes de petite vie.
Non.
Il n'y a pas d'hommes de petite vie. Pourquoi toujours les femmes?
Ah bah, tu vas pas refaire le monde maintenant, là.
Attends.
C'est demain.
Je commence demain.
Michel. Au Serre également, il a refusé le chemin de fer, il ne voulait pas le chemin de fer. Donc on est passé à La Roche-Mugène.
Voilà.
La Roche-Mugène-Dijon.
Voilà. Ce qui a permis de faire cette décision-là, le refus d'Autun et l'acceptation de Dijon, a fait que le train passe à Alésia. Qu'on a trouvé des choses et que les ingénieurs des chemins de fer, ils ont récupéré des choses. Ça a permis à Napoléon III, Napoléon le Petit, de faire des fouilles sur son ancêtre, Jules César.
Mais il y avait des problèmes de distance aussi. Le chemin de fer avec les machines à vapeur, ils ne pouvaient faire que 150 km. Après, il fallait mettre du charbon et de l'eau. Donc on a La Roche Légène, c'était très bien.
Voilà,
c'était on a pu mettre au serre, et de La Roche, ensuite, il a fallu aller à Dijon.
Ouais.
Donc c'est un petit peu ça aussi qui ont fait que cette ligne était.
Oui, décisions. Toi, Jean, tu travaillais à SNCF.
Oui.
Les décisions d'un conseil municipal, on se rend compte 180 ans après, les conséquences.
Oui, c'est ça, oui.
Enfin, on s'en est rendu compte bien avant.
Oui, mais c'est ça, mais c'est un traceur. Ça. C'est un traceur, il y a des traceurs et qu'on.
Et il y a eu le même débat.
qui vous suivent.
Il y a eu le même débat que le TGV. Parce que le TGV de faire Paris-Lyon d'une traite, sans escale. Le député maire de Le Creusot, M. Lacagne, M. le Président, je voudrais une gare de TGV. Le directeur de la SNCF à l'époque, non, c'est hors de question, ça ne sert à rien, ça ne va rien gagner, ça ne gagne strictement rien la gare de TGV. Personne ne demande pas, encore moins. Mais le sénateur maire d'Autun, très ami avec le Président, dit « moi je ne veux pas de gare de TGV ». Monsieur le sénateur maire d'Autun, vous n'aurez pas de gare de TGV. Voilà, des décisions à un moment donné qui jouent sur l'avenir.
C'est ça, oui. C'est peut-être qu'on se rendra compte que on a un fardeau qui fait que d'une décision ancestrale.
Autun n'existe que parce que Octave, le petit neveu à Jules, l'empereur Auguste, a décidé de construire une ville nouvelle sur les deniers de l'Empire.
C'est Octave qui a créé Autun.
Ouais. Auguste, qui a décidé. Auguste lui-même, la ville construite par l'empereur Auguste sur la colline fortifiée, voilà, tout simplement. Mais Augsbourg, c'est aussi l'empereur Auguste qui l'a décidé. Auxerre, Auch, enfin voilà, toutes les villes, Augsbourg.
Parce qu'il y avait Bibracte, voilà. Qui était quand même la capitale avant.
Oui, des Sédoins. Voilà. Mais c'était là où sur la montagne, c'était plus difficile à contrôler les Sédoins. Et donc en les romanisant complètement à Autun, dans une ville toute nouvelle, on les contrôlait complètement. C'était de la haute politique.
Mais nous, on est
bon, alors, aussi. Alors, cette motion numéro 5, je vous la relis. Cette motion s'appelle « Audit d'action communale
».
Dans le prolongement de la motion numéro 4, sur le rôle constitutionnel de l'Assemblée citoyenne. Donc, l'Assemblée citoyenne envisage de mettre en œuvre un audit des principales actions du pouvoir municipal, notamment celles qui ont engagé un volume substantiel de finances publiques. Cette démarche débutera par une analyse détaillée des comptes rendus du conseil municipal des 12 derniers mois et, on va ajouter, et précédent sans limitation de durée. Hein, sans limitation.
Et là, c'est.
Elle induira probablement dans sa phase préliminaire de demander un certain nombre de renseignements ou de documents complémentaires à la municipalité. Oui, demandez aux instances compétentes.
Parce que je pense que dans les choses très anciennes, on peut vraiment voir du côté de la société Edouen.
Société Edouen.
Des archives.
Ah,
oui.
Qui sont disponibles. Donc, nous remonter sans limite dans le temps.
Oui.
Enfin, c'est.
Qui s'abstient ? Qui compte ?
Remonter jusqu'en 1500, pas plus. Hein. T'as pas d'archives après.
Oui, avant.
Il y a très peu d'archives après.
Très peu d'archives.
Après, on prend les calottes glaciaires.
Déjà 1789, c'est déjà pas mal
d'avoir. 1691, moi, quand je fais pour moi. Mais Couche, je sais pas exactement. C'est papier buvard, et t'as l'écriture de derrière qui est transparente.
C'est très ancien comme municipalité, donc il se peut qu'il y ait des documents assez anciens.
Bon, alors.
Non, il y a une vieille histoire.
Donc,
au niveau des...
en conformité avec ce que nous avons dit en début de réunion, on va simplement notifier les décisions. Bon, il va y avoir le podcast, mais on va simplement notifier les décisions concrètes qui ont été prises par l'Assemblée sur les décision de la motion numéro 4. On est d'accord pour engager un débat sur quel est le rôle d'une municipalité et la motion numéro 5 sur l'audit des PV de conseils municipaux. Simplement, on notifie ça. et on le fait paraître, et puis on l'envoie. Je crois que c'est bien que la mairie reçoive chaque fois les notifications oui. d'assemblée. Oui. Voilà. Alors, il nous reste un petit peu de temps. Moi, je propose, alors à moins qu'il y ait des sujets
brûlants,
des sujets à proposer.
Cette saison.
J'ai proposé d'amorcer le débat sur quel est le rôle d'une municipalité et commencer d'abord par voir ce qui est écrit dans la Constitution.
Oui.
Alors, c'est donc le titre 12. Alors, je vais vous faire passer par mail à la fois l'article 12 dans son intégralité et puis les principaux têtes de chapitre de Légifrance extraits du code des collectivités locales. Alors, titre 12 des collectivités territoriales. Article 72. Les collectivités territoriales de la République sont des communes, des départements, des régions, des collectivités à statut particulier, et les collectivités d'outre-mer, régies par l'article 74 et suivant. Et ben, toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant, en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. Alors ça, c'est typique. Enfin bon, moi, j'ai eu beaucoup d'analyses constitutionnelles. C'est typique de la rédaction constitutionnelle.
Ça veut dire rien dire.
C'est-à-dire que vous avez le droit de faire ce que vous êtes fondé à faire.
Oui, voilà.
Grosso modo. Alors, je relis la phrase, parce que les mots sont pesants de cacahuètes.
Quand même. Oui,
bon. Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions. Oui. Tu dis, là, on va avoir...
Oui.
Pour l'ensemble des compétences...
Oui.
Compétences. Intéressant, on s'approche. Qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.
Oui. Oui,
ça s'appelle se ficher... Non pas la gueule du monde, mais la gueule du citoyen. Écrire des trucs comme ça. Bon, c'est Charles et Michel, donc, ça. Hein.
C'est qui, c'est Charles, le grand Charles
Charles et Michel.
C'est Michel, surtout Michel.
C'est Michel.
De vrai.
Oui. C'est pas Charles qui a rédigé mot à mot.
Ensuite, dans les conditions prévues par la loi. Alors là, on parle de la loi, donc il faut aller dans l'égifrée, dans le code. Parce que ça, c'est la Constitution, en dessous, il y a la loi. Oui. La Constitution, c'est pas la loi, c'est la Constitution.
Oui, c'est la loi, voilà. Exact.
Dans les conditions prévues par la loi, c'est-à-dire celles qu'on va pouvoir fouiller dans les 7000 articles du Code des collectivités c'est territoriales. Ces collectivités s'administrent librement.
Ouais. Ben là, non.
Ça, c'est extraordinaire. Oui. C'est librement. Par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
Voilà.
Alors, il y a deux bouts de phrase là. S'administre librement par des conseils élus. Qu'est-ce que ça veut dire s'administre librement par des conseils élus ? Alors, s'administre par des conseils élus, on comprend bien que ça va être des conseils élus qui vont les administrer. Mais librement, ça peut vouloir dire qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent.
Oui.
Enfin, librement, dans les limites
de la Constitution et de la loi.
Quand même.
Dans les conditions prévues par la loi.
Voilà.
Ouais. Alors, donc, ça ne veut rien dire. C'est pas à peine de le mettre. Si on dit qu'elles s'administrent librement dans les conditions prévues par la loi, il faut mettre... Mais... Moi, en tant que juriste, je vais dire il faut mettre ces collectivités s'administrent sont administrés par des conseillers élus. Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent par des conseillers élus. Enfin, bon, ça c'est simplement de la... Bon.
Moi j'interprète le mot librement dans la possibilité qu'on puisse avoir plusieurs choix possibles à l'intérieur du cadre et qu'on fait plutôt un choix ou un autre choix. Le coût du train à autant. On ne le prend pas.
Ça relève de la décision du
libre du conseil municipal. Il est élu de le prendre ou pas.
Ah ben. Oui, alors, à ce moment-là, c'est mal dit. Il faut dire les conseils élus délibèrent en toute liberté.
Dans les limites de la loi.
Oui. Non, mais c'est ce mot libre. Enfin, bref, ouais. Ça ne va pas nous avancer.
Non.
C'est ça, c'est. Oh, dit en passant, mais lorsqu'on fait de l'analyse constitutionnelle, on peut passer une séance entière là-dessus. Oui. Hein. Alors, est dispose d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire?
Il dispose d'un pouvoir réglementaire.
Si c'était prévu par la loi, il pouvait éventuellement décider de mettre une porte rose, une fuchsia, une.
Non mais, pouvoir réglementaire. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir réglementaire?
Le pouvoir, pardon.
Réglementaire. Je répète, elle dispose d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
J'imagine que c'est le pouvoir réglementaire. De faire un règlement municipal, je ne sais pas, mais un règlement dans lequel on dit, bah, tiens, monsieur qui est préposé, qui sera chargé des espaces verts, par exemple, pourra faire ceci, cela.
Non, mais qu'est-ce que c'est que le pouvoir réglementaire? Quelle est la définition du pouvoir réglementaire?
Le pouvoir réglementaire, c'est qui découle d'un règlement. Le règlement qui.
Et par exemple, les employés municipaux, quand ils vont travailler pour faire du jardinage, ils doivent avoir des chaussures de sécurité, des gants, etc.
Non. Non, alors, pour l'instant, vous avez faux la réponse. Hein. Je repose la question. Qu'est-ce que c'est, parce que là, bon, là on est sur la constitution. Hein. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir réglementaire?
C'est de pouvoir fixer un règlement pour la commune.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un règlement?
Alors, c'est une décision qui oblige tous les citoyens.
Non,
mais si, alors, mais ce que tu décris, c'est une règle coercitive.
Non, qu'est-ce qu'un règlement?
Pour moi, le bon exemple, c'est on va décider de mettre à 30 km/h le centre-ville. C'est assez classique que certaines communes débattent, ou la difficulté à débattre, finissent la décision. De faire les voies sur berge et puis la décision de supprimer les voies sur berge.
Je pose la question autrement. Quelle différence y a-t-il entre un règlement et une loi?
Un règlement, à mon avis, c'est beaucoup plus local. Oui, voilà.
Local.
Non. Plus restrictif.
Bon, alors je vais vous donner la solution. Je vais vous donner la solution. Hein. Oui. Bon, c'est l'article 37 de la Constitution. Oui. Vous avez en France un truc qui s'appelle l'Assemblée nationale.
Oui. Qui fait des lois.
Qui vote la loi. Et ça, ça s'appelle elle. Elle quelque chose. Puis vous avez des trucs qui s'appellent A quelque chose, des trucs qui s'appellent R quelque chose, des trucs qui s'appellent D quelque chose.
Oui, c'est ça. D'accord.
Hein? D'accord. Bon, A arrêté, R règlement, D décret. Bon. Tout ça, ça fait à peu près 140 000 textes coercitifs répartis dans 74 codes juridiques. La loi, c'est simplement 10% de tout ça. Et c'est ce qui sort de l'Assemblée nationale. Tout le reste, c'est pas fait par les députés. Ça veut dire que 90% des règles coercitives, c'est une injonction à ne pas faire ou à faire. Non, mais règle coercitive, c'est soit une interdiction, soit une contrainte. C'est une injonction à faire ou ne pas faire qui est soumise à une sanction si on ne s'y conforme pas. C'est une règle coercitive. Bon. C'est très coercitif, ça peut être soit une loi, soit un règlement. Règlement, c'est règlement, arrêté, décret. La loi, ça sort uniquement de l'Assemblée nationale. Le reste, c'est l'article 37 de la Constitution. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Et les matières qui relèvent de la loi, c'est ce qui est écrit dans l'article 34. Bon, on fera un autre jour une analyse de la Constitution, mais c'est assez important, c'est quelque chose qui n'est pas connu, ça, enfin, en tout cas, qui est mélangé. Bon, il y a quelque chose qui s'appelle la règle coercitive.
Ouais. Hein,
c'est le truc qu'on est obligé de faire, sinon...
Ouais.
Mais, alors, il y en a environ 140 000, mais là, il y en a une toute petite partie qui est faite par... Vous croyez tous que la loi... C'est les députés qu'on élit, hein, vous savez, à deux tours, etc. Puis ils sont 577 au Palais Bourbon, ils sont 345 au Palais de Luxembourg. Bon. Et vous dites, la loi, c'est fait par ces gens-là. Oui, c'est un tout petit.
Oui, mais parce qu'il faut
le reste, c'est fait par. Ben oui. C'est fait par.
Le maire.
Des préfets.
Le maire.
Des ministres. Des maires.
Des maires.
Des maires. Voilà. Des technocrates, et puis alors pour ce qui est des décisions européennes...
Pas technocrate de base, c'est son chef. Et c'est le préfet, c'est le...
Il signe le truc, c'est le technocrate qui a tout écrit.
Oui, qui a écrit. Voilà.
Bon.
On est préfet, d'accord.
Voilà.
même les préfets.
Et donc, le gouvernement, oui. c'est le plus gros producteur de règles coercitives, c'est le gouvernement.
Bien sûr.
C'est l'exécutif.
Mais oui, parce que le préfet, lui, reçoit les directives.
Mais le préfet en fait aussi. Le préfet, il prend des arrêtés. Le préfet, il interdit Dieu donné, il interdit des trucs, il prend des décisions.
Les économies d'eau, là, l'été.
Oui, mais alors, oui, mais tout ça, c'est des règles coercitives. C'est des trucs qui s'imposent.
Quand vous dites que c'est le préfet qui décide, je veux bien vous croire. Mais ils ont tous des commissions, ils ont tous des. Je cherche le terme, des secrétariats. Il y a le secrétariat, je ne trouve pas le. Il y a le service des.
Compétents. Commissions.
Ce sont des services. Des services. Compétents. Des espaces verts. Les services sanitaires.
Okay. Non, mais etc. Ça, c'est autre chose.
Le préfet, lui, il y amène la plupart du temps.
Oui, enfin, c'est autre chose. C'est un arrêté.
Mais c'est des fonctionnaires.
Oui.
D'ailleurs,
c'est des fonctionnaires qui fabriquent la loi. Un peu comme la Constitution est faite, il y a des fonctionnaires qui fabriquent la loi.
Ben oui, voilà.
Qui fabriquent en fait des règles coercitives. Enfin, tout ça pour revenir au pouvoir réglementaire. Donc, les conseils municipaux n'ont pas le pouvoir de faire la loi, le pouvoir de faire des règlements. Et il n'y a aucune différence entre la loi et le règlement, aucune. Si ce n'est que ce qui est écrit dans l'article 34, c'est fait par l'Assemblée nationale, et tout le reste, mais ça fait l'objet de règles coercitives, c'est fait par le gouvernement, les préfets, les maires, etc. Voilà. C'est ça, c'est le pouvoir réglementaire.
Ça veut dire que c'est ceux qui ont un pouvoir exécutif.
C'est des gens qui ont à la fois, d'où contradiction avec l'article 16 de la DDHC, qui dit que toute nation qui n'établit pas de séparation claire entre les pouvoirs est réputée ne pas avoir de constitution. Or, la constitution française bafoue en permanence l'article 16 de la DDHC, puisqu'elle n'établit pas, de façon claire, loin s'en faut, de distinction entre l'exécutif et le législatif, puisque la plupart des décrets coercitifs, donc législatifs, sont faits par l'exécutif.
Mais comme la majorité des pays du monde nous ont copié.
Alors, je ne sais pas, je crois qu'il y a plus, par exemple, dans le droit anglais, il y a plus de séparation.
Il y a plus de séparation dans le droit anglais.
Alors, revenons à notre conseil municipal, qui donc dispose d'un pouvoir réglementaire. Il a le droit d'établir des règles coercitives. Ça veut dire, vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça. Dans les conditions prévues par la loi organique. La loi organique, c'est une loi qui, définit les règles, la cuisine interne des différents services. Et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger à titre expérimental et pour un objet et une durée limitée, dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. Ça veut dire que les collectivités territoriales, le conseil municipal pour l'objet de notre étude, est encadré par Légifrance, le code des collectivités territoriales, dont quelques extraits sont là, que je vais vous mettre en... parce que le code, c'est un des plus fournis avec le code des impôts. Dans certaines conditions, qui ne sont pas précisées, elles peuvent déroger. Oui. C'est-à-dire que, alors, ce n'est pas pour couche, mais c'est pour Paris, Lyon, Marseille, les municipalités peuvent, par exemple, si, Paris est assiégé par les Coréens, les Nord-Coréens, exprès un truc rigolo. Bon, le maire, il peut déroger à tout, il peut prendre.
C'est pas ce qu'un préfet, le Lyon de Marseille, non ?
Alors là, c'est un grand débat, ça. Qui est plus fort, le maire ou le préfet ?
En matière de police et tout.
C'est un grand débat. Bon. Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune. Donc c'est, ça ouvre la possibilité à, de, pour les communautés de communes. Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du gouvernement, à la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Donc ça, c'est le préfet. Préfet qui, a priori, donc chapeaute, quand même, hein, parce qu'il dit, hein, il a en charge les intérêts nationaux, le contrôle administratif et le respect des lois. C'est-à-dire qu'il veille à ce que le maire respecte bien les lois. Il peut contrôler administrativement ce que fait le maire, hein. D'ailleurs, ça a été confirmé par M. Bondou, qui était ancien maire de Couche, qui a participé au débat. On avait posé un petit peu la question, mais bon, les arrêtés municipaux, faites n'importe quoi. Non, il y a un certain nombre de choses qui doivent être validées par le préfet.
J'ai vu ce que tu fais là-dedans.
Voilà. Et si le préfet dit, attendez, il y a l'intérêt national qui est en jeu, le maire... Voilà. Article 72.1. La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice de leur droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée délibérante, conseil municipal, de cette collectivité et d'une question relevant de sa compétence. Droit de pétition, chose aussi qu'on ne sait pas. Dans les conditions prévues par la loi organique, la loi qui organise la Constitution, les projets de délibération ou d'actes relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis par la voie du référendum à la décision des électeurs de cette collectivité. Donc là, dans l'autre sens, le maire peut déclencher un référendum. Par exemple, il se dit, tiens, on va mettre 200 000 euros dans la reprise d'un café qui a fait faillite, par exemple. Ce n'est qu'un exemple. Je vais demander l'avis. Hein, on va faire un petit référendum. Non, chef. Vous n'avez qu'à décider vous-même. Voilà. Bon. C'est ou l'un ou l'autre. Voilà. Article 72.2. Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. Elles peuvent recevoir toute partie du produit des impositions de toute nature. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine. Donc, les collectivités locales ont un pouvoir de fixer l'assiette de l'impôt local. Alors, pas l'assiette de la TVA, mais l'assiette des impôts locaux, c'est-à-dire ici, la taxe des ordures ménagères, ça va être de temps, et à côté, ça va être plus ou moins.
Taxe foncière,
taxe d'habitation, mais, taxe professionnelle, enfin ce qui autour du jeu est éclaté entre la CRVE.
Mais avec une restrictivité, enfin, où c'est. Moi demain, quand je serai maire, oui, par exemple, oui. Je dis. Bah,
c'est en mars que.
Oui, enfin en mars. Je dis, il n'y a plus d'impôts, peut-être qu'il n'y a plus de taxe d'habitation. Oui, mais c'est oui, je le répète.
Mais on sait qu'au mois de mars, quand je serai maire,
je répète, il faut bien que je fasse ma pub. Hein.
Tu vas supprimer ce qui est déjà supprimé. C'est bien ça.
Oui, exactement. Je suis à l'école Macron. Je vais supprimer ce qui est déjà supprimé, ce qui est prévu d'être supprimé.
Il est en train d'inventer le ciel.
Bon, alors tous les deux, on va venir habiter à Couche, parce que si c'est pour les taxes d'habitation, c'est très intéressant.
Absolument. Mais Manu l'a supprimé déjà.
Non, on sera encore embêté.
Bon, donc fixer
l'assiette, mais il y a des limites, il précise s'il y a des limites ou. Moi je dis je supprime à 100%.
Non,
il n'y a pas de limite.
Non, tu peux fixer les assiettes.
Oui, je peux fixer les assiettes.
Oui.
Il y a un plafond.
Ah, alors écoute, je vais relire la phrase. Hein. Ouais. Elles peuvent recevoir toute ou partie du produit des impositions de toute nature. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine. Donc c'est la loi qui va dire, monsieur le maire, vous avez le droit de fixer l'assiette.
Voilà, oui, il y a des limites.
Voilà. Mais la loi donne un éventail.
Une plage de travail.
Un éventail de possibilités.
Le bon exemple est de la salle ici, où il y avait un plafond qui était plus haut, et puis maintenant on a mis les plafonds plus bas.
Là. Oui, c'est ça, oui, il y a deux niveaux, on prend celui qu'on veut.
L'ancien plafond, puis on a décidé de mettre le plafond plus bas.
Alors, les recettes fiscales et les autres ressources propres à des collectivités territoriales,
c'est par souci d'économie de chauffage,
représentent pour chaque catégorie de collectivité une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre. Ça veut dire que les principales ressources des collectivités territoriales, c'est les impôts locaux. La dotation, disons, de l'État central, elle est...
Taxe professionnelle aussi.
Ah, oui, ben, alors, c'est la trilogie taxe d'habitation, taxe foncière, taxe professionnelle.
Ouais.
Bon, avec, après, des taxes d'ordures ménagères, c'est la... Les ressources principales. Mais il y a aussi la dotation. La trilogie, c'est taxe d'habitation, taxe foncière et taxe professionnelle. Ça a été éclaté maintenant entre la CRDE et je ne sais quoi. Enfin, ça existe toujours. En plus, il y a une dotation de l'État central, mais la. Alors, je ne sais pas, on va dire 70%, mais 80%, sous toute réserve, hein, des recettes d'une collectivité territoriale, c'est les impôts locaux.
Oui, les dotations de l'État, c'est la loi Pareto 80-20.
Ben on peut, oui, quelque chose comme ça. On peut voir, de toute façon, dans les budgets, dans les comptes annuels que donne une municipalité, on peut voir la dotation de l'État. On voit que ça représente dans les 20%. Mais... Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. C'est-à-dire, si l'État arrête de s'occuper des écoles maternelles et puis en donne la gestion à la municipalité, bah, il lui donne le budget qu'il avait, ça paraît logique. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. Voilà. Pour l'écrire, pour être sûr que c'est bien vrai. La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales. Bon. Alors après, à partir de 72.3, voilà, ça concerne la Guadeloupe, la Guyane, l'Outre-mer. Donc il y a finalement peu de choses.
Monsieur, il y a
Charlie
qui peut faire pipi.
Oui, je vais aller faire du pipi. Non. Juste une petite question. J'ai compris à peu près le texte, mais quand on prend par exemple la communauté de communes, c'est-à-dire qu'elle va prélever aussi la taxe d'habitation, la taxe foncière, la taxe professionnelle. Alors, comment ils se partagent après entre la commune et la collectivité? C'est-à-dire qu'ils mangent au même râtelier, puis après il y a une clé de répartition.
Il y a un pourcentage.
Alors, ça c'est pas dit dans la Constitution.
Non.
Il faut aller dans le code des collectivités territoriales. La Constitution dit simplement, tout à l'heure on l'a énoncé, que les communes elles sont souveraines, mais qu'elles peuvent se grouper pour mettre en commun certains moyens, faire des économies d'échelle. Voilà. Bon. Donc après, les communes, elles ont chacun leur recette, c'est-à-dire la commune de Couches, les taxes foncières, taxes d'habitation. Du périmètre de couche, et donc ils ont leur budget, et après ils se mettent entre eux, et puis
discutent.
Mais c'est pas
précisé sur les papiers qu'on prend de taxes d'habitation.
Ah ben alors là il faut aller dans le code des collectivités territoriales, et certainement que la loi encadre les choses qui peuvent être mises en commun, pas mises en commun. Bon, la communauté de communes, ça fait l'objet d'un titre entier. Les bouquins, les communautés de communes.
Et selon les communautés de communes, il y a des communautés de communes où les communes ont transféré beaucoup de responsabilités à la communauté de communes, d'autres moins.
Oui.
Et avec le regroupement de communautés de communes, ça a été la discussion du bout de gras.
Bah oui.
En particulier, sur le pourcentage des chemins communaux.
Oui, ça des transferts de compétences entiers. Donc on suit la logique que fait l'État avec les collectivités territoriales. S'il y a une commune qui transfère à une autre commune, elle va transférer aussi le budget. Si c'est partagé, ben on va partager à deux tiers, un tiers, moitié-moitié. Voilà, c'est une question de négociation.
Je me souviens, après les dernières précédentes élections municipales, mon nouveau maire avait invité le président de la communauté de communes pour expliquer un petit peu le lien. Et Rémi avait expliqué qu'on payait en moyenne 65 euros par habitant au budget de la communauté de communes, direct, hein, en impôts, taxes d'habitation, taxes foncières, taxes professionnelles, que sur un budget de 1000.
Alors, il est
le reste venant d'ailleurs.
Il est l'heure. Et je me permettrai une petite conclusion sur ce premier petit chapitre sur les collectivités territoriales. C'est qu'au niveau, municipalité par exemple, il n'y a rien dans la Constitution qui définit le rôle d'une collectivité. Il suffit de relire cette phrase extraordinaire qui est celle-ci. Les collectivités territoriales ont vocation à prendre des décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.
Eh bien, finalement, on est dans un pays de liberté. Quelque part, on n'est pas constamment encadré.
Attendez, parce que là, on n'est qu'au niveau de la Constitution.
On n'est pas encadré.
Tout ce qu'on peut dire, c'est que... On se pose la question, quel est le rôle d'un conseil municipal? Tout ce qu'on peut dire, c'est que dans la Constitution, c'est pas défini. C'est pas défini. Bon. Et que, alors, il n'y a pas de principe. En principe, le rôle d'une Constitution, c'est pas d'entrer dans le détail des règles constitutives, c'est d'établir des principes qui vont justement guider les modes d'application plus ou moins fins, plus ou moins particuliers, pour telle et telle application spécifique. On pourrait imaginer que dans la Constitution, il y a un principe de pouvoir, de définition du pouvoir d'une collectivité territoriale. En fait, c'est pas le cas. Donc, il faut aller voir ensuite dans le Code des collectivités territoriales si on définit vraiment le rôle, les attributions, les missions, les pouvoirs.
C'est normal que la Constitution, finalement, elle dit simplement. On est dans une république démocratique, sociale et
bananière.
et laïque surtout. Ouais. Voilà, on décide ça. Et moi j'aimerais un jour qu'on parle, effectivement, mais on en parlera beaucoup plus tard, sans doute. S'agissant, parce qu'on vient surtout, si je comprends bien, dans les associations. Mais combien de personnes connaissent vraiment le fonctionnement d'une association elle est issue de notre constitution directe. Elle est écrite en 1920, les lois des associations. Ouais. Mais on ne sait rien. Et elle-même, l'association, elle doit être sociale.